affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Comme vous l'avez certainement constaté, notre époque est friande de récits de changement de vie. Les magazines contemporains relatent ainsi volontiers le cas de cadres supérieurs ou de managers haut placés qui, plus ou moins soudainement, décident de délaisser leur carrière pour un engagement humanitaire ou social, plus en accord avec leurs convictions, en quête d'une vie qui ait davantage de sens. C'est un tel changement d'orientation que nous allons examiner aujourd'hui à travers le cas d'un drapier, artisan et négociant de Crémone, qui au fait de sa carrière a décidé, lui, de revoir également ses priorités, de ne plus consacrer l'essentiel de ses efforts à la quête de biens matériels, mais à la bienfaisance et à la spiritualité. Un engagement suffisamment radical pour qu'il attire l'attention de ses contemporains et aussi du pape Innocent III, qui décida d'en faire le premier laïc non noble canonisé par l'Église médiévale. Car oui, j'ai oublié de vous le préciser, cette histoire édifiante ne s'est pas déroulée de nos jours, mais au XIIe et XIIIe siècle de notre ère, c'est celle de Saint Aumont de Crémone, auquel André Vaucher, vient membre de l'Académie des inscriptions et belles lettres bien sûr, vient de consacrer un ouvrage qui, au-delà de la monographie, nous mènera d'ailleurs à nous interroger également, au-delà du sens de la vie et de celui que nous pouvons chacun y attacher, à des questions telles que la dignité du travail et plus globalement des activités économiques. Autant de questions qui restent, comme vous l'aurez certainement compris, très largement d'actualité. André Vaucher, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes historien médiéviste. Et vous venez donc de publier au sein de la collection prestigieuse Subsidia Geographica, c'est comme ça qu'on dit, de la Société des Bollandistes, une monographie de Saint Aumont de Crémone. Pouvez-vous, pour commencer, nous présenter cet homme, car au-delà de l'histoire édifiante, il y a bien une personne réelle, en chair et en os.
Effectivement, Saint Aumont a bien existé, c'est déjà une chose qu'il faut dire, puisque parfois, pour les saints du Moyen-Âge, on s'interroge sur la réalité de leur existence. Lui est bien attesté par diverses sources, donc il n'y a pas de doute. Cela ne signifie pas qu'il soit très connu, au contraire, je dirais qu'il est un peu le saint inconnu, comme on parle du soldat inconnu. C'est vraiment l'anonyme, si je peux dire, de la sainteté, dans la mesure où même en Italie, qui est sa patrie d'origine, Crémone, c'est une ville qui est située sur les rives du Pô, à peu près à mi-chemin entre Milan et Venise, et bien même en Italie, il n'est pas très connu. Son vrai nom, il faut quand même lui rendre son nom, c'est Homo Bono, ce qui a été traduit en latin Homo Bonus et en français Homme Bon. Voilà, donc un personnage assez obscur, qui a vécu au XIIe siècle, qui a vécu longtemps d'ailleurs, on ne sait pas sa date de naissance, mais elle doit se situer autour de 1120, peut-être un peu avant même, et il est mort en 1197. Et ce qui est frappant, c'est qu'il est canonisé, proclamé saint, par le pape Innocent III en 1199, donc deux ans à peine après sa mort, ce qui est un délai extrêmement rapide, même encore aujourd'hui, c'est rare que ça prenne aussi peu de temps. Alors pourquoi est-ce que ce personnage a retenu l'attention de ses contemporains et de l'Église ? Bien parce que c'est, comme vous venez de le dire, un homme qui a eu une rupture dans sa vie. On appelait ça une conversion, en grec metanoia, mais en latin médiéval on parlait de conversio, conversion. Et donc un homme qui appartenait à un milieu assez aisé, qui était drapier, alors on ne sait pas très bien, ça recouvre pas exactement la même chose qu'aujourd'hui, il faisait le commerce des draps, ça pouvait l'amener à aller dans des foires pour en acheter ou pour en vendre, ça pouvait l'amener aussi peut-être, mais non, pas d'aider là-dessus, à être marchand de tissus, d'habits, qui sait. Bref, en tout cas, la draperie est son monde. Donc il vit à une époque d'essor économique, le XIIe siècle, surtout en Italie, une époque de grande croissance rapide. Il gagne beaucoup d'argent et à un certain moment, il s'interroge sur l'argent qu'il a gagné, la façon dont il l'a gagné, pas toujours très honnête peut-être, et l'usage qu'il a fait de cet argent aussi, il a dû en prêter à intérêt. Bref, tout ça commence à peser sur sa conscience, et à une date qui n'est pas connue, mais qui doit se situer autour de la cinquantaine, donc ça nous mènerait vers 1170, d'après ce qu'en disent les textes, il décide d'arrêter son activité professionnelle, de rompre avec sa vie antérieure, et non pas de se faire moine ou d'entrer dans les ordres, pas du tout. Il reste laïque, mais il est marié, il a des enfants, mais il choisit de vivre de façon religieuse et en particulier de reporter toutes ses attentions et son argent aussi sur les pauvres de sa ville. Voilà. Et il est resté célèbre pour avoir fondé un hospice et on lui a accordé... déjà de son vivant, mais surtout après sa mort, le titre de père des pauvres. Voilà. En gros, et très schématiquement, la vie de saint Thom-Bon, ce qu'on en sait.
Donc à l'époque, on appelle ça une conversion. Aujourd'hui, on dirait une crise de la cinquantaine. Parce que vous dites c'est vers l'âge de 50 ans. Elle se matérialise à l'époque par une sorte de prodige ou de manifestation. En tout cas, c'est comme cela que c'est relaté à l'époque. Est-ce que vous pouvez nous parler de cela?
Voilà, alors il y a... un recueil de miracles, mais qui suit de peu sa mort, deux ou trois décennies, où on raconte que Thom-Bon, un jour qu'il avait fait de bonnes affaires, rentre chez lui et se frotte les mains de ses gains, et puis en regardant ses mains, il voit qu'elles sont noires, et alors il essaye toutes les façons dont il peut de se débarrasser de cette noirceur, et ça ne s'en va pas. Alors il va voir son confesseur, le prêtre de sa paroisse, et qui lui explique que c'est l'usage qu'il a fait de cet argent qui a sali ses mains, c'est-à-dire sa conscience, et que s'il veut récupérer la blancheur des mains, mais aussi la pureté de la conscience, il faut qu'il change de vie. Donc c'est probablement à la suite de cette prise de conscience qu'il décide de changer de vie et de mener, de vivre saintement et surtout charitablement.
Alors, est-ce qu'on a des éléments plus précis sur cette façon de vivre saintement et charitablement? Vous l'avez dit, ce qui est intéressant, c'est, enfin, son cas est particulier dans la mesure où il ne rentre pas dans les ordres, il reste marié, il continue à exercer son métier. Mais que fait-il alors pour vivre plus pieusement et saintement au point d'être, de pouvoir être canonisé, ce qui, si j'ai bien compris, est plutôt rare.
Alors. Il avait des biens, une maison, des vignes, parce qu'il y a un miracle ou deux qui se situent dans les vignes, qui possédait à la périphérie de Crémone, qui est une région où on produit encore aujourd'hui un très bon vin, le Lambrusco. Et donc, il avait des ressources, et ça, il l'a gardé. Il ne fait pas, comme l'ont fait d'autres ascètes de l'époque, ou comme le fera Saint François d'Assise, 50 ans plus tard, il ne rejette pas tous ses biens, il ne se met pas nu et sans ressources, mais il garde ce qu'il faut pour faire vivre sa famille. Il travaille d'ailleurs lui-même dans ses mains, dans sa vigne, mais tout le reste, tout ce qui était lié à l'activité commerciale, il l'abandonne. Ou plus exactement, il utilise l'argent qu'il avait accumulé dans ses activités commerciales en faveur des pauvres. Et c'est cela qui lui a valu, évidemment, cette réputation de sainteté auprès de ses concitoyens. Alors, vivre saintement, c'est évidemment très difficile à définir, puisque nous ne le connaissons qu'à travers des vies de saints du XIIIe siècle, qui sont assez proches de l'événement, mais quand même pas immédiates. Et puis, c'est un genre littéraire, la vie de saint. Il s'agit d'insister sur les mérites, les vertus. On ne sait pas toujours tous les détails. On aimerait en savoir plus, parfois. Mais ces vies nous montrent que il passait, d'une part, une partie de son temps en activité de prière. Il assistait tous les jours à la messe. Il se levait très tôt. Voilà, donc il mène une vie religieuse stricte. Il pratique tous les jeûnes recommandés ou ordonnés par l'Église. Donc il mène d'un certain côté la vie d'un moine. Mais d'un autre côté, Il n'entre pas au monastère, je l'ai dit, et il choisit de rester dans le monde. Et rester dans le monde, ben, ça veut dire distribuer de l'argent aux pauvres, mais pas seulement de l'argent, distribuer aussi des biens matériels, du vin, de l'eau à des gens assoiffés, etc. Donc il se place, il se met au service, disons, de la population de sa ville, qui est une ville extrêmement dynamique, une des plus riches d'Italie du Nord. Oui. On est dans un des fiefs de ce qu'on appelle aujourd'hui la Ligue du Nord. Oui. Tout paradoxe mis à part, c'est la région riche de l'Italie, et c'est celle peut-être où les pauvres, ou aujourd'hui les migrants, sont le moins bien reçus. Voilà. Donc il est à contre-courant, et courageusement... malgré les sarcasmes de ses anciens collègues, mais aussi, semble-t-il, de sa famille, qui n'était pas très favorable.
De son épouse.
C'est moins qu'on puisse dire. L'épouse serait, mais là encore, il faut se méfier des biographes ecclésiastiques qui parfois ont tendance à faire retomber tous les critiques sur les femmes. Son épouse, lui, aurait passé son temps à lui faire des reproches sur sa trop grande générosité, sur le fait qu'il risquait de mettre en péril la situation de la famille. Bref, malgré toutes ces résistances, il persévère, il ouvre sa maison aux pauvres, il crée une sorte d'hospice.
Dans sa propre maison.
Dans sa propre maison, il en fait un foyer d'accueil. Et après sa mort, le relais sera pris par des associations laïques, si vous voulez, un peu ce qu'on appelle l'équivalent aujourd'hui du Secours catholique ou du Secours populaire, et qui continuera jusqu'à la fin du XVIIIe siècle ces œuvres de bienfaisance envers les pauvres.
Parmi les nombreux documents d'époque que vous avez bien évidemment retrouvés et consultés, il y a la bulle de canonisation, et qui permet évidemment de découvrir la façon dont, j'allais dire, le procès a été instruit, le procès en canonisation. C'était un peu plus léger à l'époque, semble-t-il, qu'aujourd'hui, mais ça nous en apprend quand même beaucoup sur les critères de la sainteté. Il est un peu un cas à part. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela?
Oui, absolument. Nous sommes à une époque charnière. C'est l'époque où se met en place la procédure de canonisation, car jusqu'au XIIe siècle, l'Église... bien sûr, il y avait eu des saints, mais ces saints étaient des saints, je dirais, locaux. C'était des évêques ou des abbés qui instituaient le culte de tel ou tel saint dont ils possédaient des reliques dans leur abbaye ou leur cathédrale. Il n'y avait pas de processus unifié de reconnaissance de la sainteté. Or, à partir de la fin du XIIe siècle, la papauté institue justement un contrôle, et on va avoir précisément à la fin du XIIe, surtout au début XIIIe, l'institution du procès de canonisation, c'est-à-dire une enquête avec des témoins assermentés, dont les témoignages, les dépositions sont enregistrées par des notaires, etc. Mais nous n'en sommes pas encore là. Ça sera plutôt dans les années 1230, 1220, 1230, que ce procès, tel qu'on le connaît encore aujourd'hui, s'est mis en place. Là, nous sommes à un stade antérieur, 50, 40 ans avant. Et donc, comment se fait-il que le pape a entendu parler de lui? Bien, le pape Innocent III, qui est un des grands papes du Moyen-Âge, était très lié à l'évêque de Crémone, Sicard, qui est lui-même une personnalité extrêmement intéressante et importante, un grand intellectuel, un homme qui avait beaucoup écrit en droit, il avait aussi été chroniqueur, enfin il avait vraiment une grande activité intellectuelle et un esprit très, très brillant. Et Sicard, donc, connaissait Ombon, il l'avait apprécié à la fin de sa vie, et il l'a recommandé au pape. Alors on me dirait, mais c'est peut-être pas suffisant. Alors il y avait une pression aussi populaire, puisque dès le lendemain de la mort d'Ombon, il y a eu des miracles à sa tombe, les gens sont venus se faire toucher ses reliques, son corps, son tombeau ensuite, et beaucoup ont été guéris, donc il y avait une pression de la base, comme on dirait aujourd'hui. Mais il y avait une autre raison qui a poussé le pape à le canoniser, c'est que c'était l'occasion ou jamais pour la papauté de de se concilier les faveurs d'une classe montante de la société italienne, qui était la bourgeoisie, ce qu'on appelle en italien le popolo. Mais le popolo, si on traduit par peuple, ça ne veut rien dire. En fait, c'était la bourgeoisie marchande, la bourgeoisie d'affaires, bourgeoisie d'argent, qui arrivait au pouvoir à ce moment-là et qui était en conflit avec les nobles, les anciens nobles qui résistaient, parce que jusque-là, les grandes familles aristocratiques avaient le monopole du pouvoir. Donc les marchands, les gens du popolo essayent de au moins partager le pouvoir avec les nobles, ou parfois même de l'accaparer complètement.
Et Crémone, ça se traduisait par...
Et alors Crémone, c'est une des villes les plus conflictuelles à l'époque, entre ces deux groupes sociaux, et à tel point qu'à un moment, les gens du Popolo sont partis fonder une ville à côté pour bien montrer qu'ils ne voulaient plus rester esclaves des nobles traditionnels. Donc finalement tout ça s'est arrangé, mais l'évêque justement Sicard y a été pour beaucoup. Et la papauté a voulu donner un coup de chapeau, si je peux dire, et proposer un modèle surtout à ces nouvelles classes montantes, dirigeantes, dont la richesse était le principal atout. Et il y avait une autre raison à cela, il en est question dans la bulle de canonisation, c'est que ces régions de la plaine du Pô, la Lombardie actuelle, étaient gagnées par des mouvements de contestation, voire d'hérésie, en tout cas on parle d'hérésie dans les textes de l'époque, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, mais enfin c'est des gens qui visiblement n'étaient pas d'accord avec l'Église ou avec le clergé et qui le combattaient. Et donc, aussi, le fait de porter sur les autels un bourgeois de Crémone, c'était donner un signe, faire un geste en faveur de ces classes dirigeantes qui étaient susceptibles d'être gagnées par le catharisme ou par des hérésies qui étaient alors en plein essor.
Oui, d'ailleurs, vous nous dites que dans la bulle de canonisation, il est précisé, reprécisé à plusieurs reprises, qu'il n'est pas seulement canonisé pour ses bonnes œuvres, mais aussi pour son obéissance, sa présence à la messe, et point peut-être encore plus capital, par le fait que bien qu'on lui ait proposé plusieurs fois de prêcher en public, il s'y est refusé, ce qui le distingue évidemment forcément des hérétiques qui, eux, devaient faire des contre-prêches, j'imagine.
Voilà, donc là, c'est vraiment l'exemple non seulement d'un saint laïc, mais d'un saint laïc obéissant. Obéissant à l'Église, par opposition, justement, comme vous venez de le dire à l'instant, à ces prédicateurs populaires, plus ou moins contestataires ou hérétiques, qui s'arrogeaient le droit de parler que l'Église considérait comme son monopole.
Donc par cette canonisation, c'est aussi l'habilité de l'évêque Sicard, son habilité de négociateur, de publiciste presque, et de diplomate qui se dévoile.
Voilà, comme dans presque toute canonisation, vous savez, encore aujourd'hui, il y a évidemment un dossier qui doit être très bon, et le candidat aux autels, comme on dit, doit avoir toutes sortes de vertus et de pratiques saintes, mais il y a aussi un argument d'opportunité. On canonise quelqu'un parce que on sait que ça aura un effet dans telle partie du monde, dans telle église, ou dans tel milieu social, etc. Donc il y a un argument pour l'Église et pour la papauté qui canonise. Il y a aussi évidemment un objectif
d'édification.
Pastoral, dirons-nous, ou d'édification, comme vous voulez.
Alors, il y a un autre élément qu'il faut peut-être préciser, c'est aussi une zone de conflit entre ce qu'on appelait les Guelfes et les Gibelins. Dans quelle mesure le bienheureux homme bon s'insère-t-il dans ces conflits?
Alors, il s'y est pas directement inséré, dans la mesure où il est mort à temps, si je peux dire. C'est-à-dire qu'il est mort en 197, et les grands conflits entre Guelfes et Gibelins, c'est plutôt après 1200, au moment de Frédéric II, après 1215, quand Frédéric II devient empereur.
Dans l'usage de son culte.
Il engage un conflit à mort contre la papauté, qui ne se terminera qu'en 1250, avec la mort de Frédéric II. Donc, les grandes batailles entre Guelfes et Gibelins sont postérieures. Mais c'est quand même intéressant dans la genèse du culte Saint-Homme-Bon, parce que ce culte est resté bloqué pendant un siècle et demi. Il est resté purement local. C'est même assez étonnant. C'est le seul cas que je connaisse. Pourtant, j'ai étudié beaucoup de canonisation du Moyen-Âge, où une fois le saint canonisé, on n'en parle plus. On n'en parle plus qu'à Crémone, parce qu'il est resté confiné dans son petit milieu crémonais. C'est à peine si on le connaît un peu à Milan ou à Venise, on lui met quand même une petite mosaïque à Saint-Marc en son honneur, mais enfin, pas grand-chose. Le culte ne rayonne pas parce qu'il n'y a pas, il n'y a plus d'éléments porteurs. Tous ces grands conflits qui ont déchiré Crémone jusque vers 1260-70 ont fait que le culte a stagné. Et alors, il va connaître une deuxième vie à partir de la deuxième moitié du XIVe siècle, lorsque on verra se multiplier en Europe, pas seulement en Italie, ce qu'on appelle des guildes ou des associations de marchands, enfin, les noms varient d'un pays à l'autre, des corporations, etc. C'est-à-dire des associations professionnelles de marchands, en l'occurrence, ou d'artisans, de drapiers, qui vont chercher un saint patron. Et on ne pouvait pas trouver, quand on était drapier ou marchand de costumes, on ne pouvait pas trouver de meilleur patron que Hombon, dont tout le monde savait, par les textes qu'on avait rédigés à son sujet au XIIIe siècle, qu'il était, il avait commencé par être marchand drapier.
Oui, et là,
son culte va, je dirais, presque éclater. Alors qu'il avait stagné pendant un siècle et demi, on le trouve ensuite à peu près partout en Italie, toujours lié avec les confréries de marchands, parce que souvent les corporations se doublaient d'une confrérie. La corporation avait surtout des objectifs professionnels et de régir les artisans d'un même métier, mais il y avait une confrérie où tout le monde se retrouvait pour prier pour les morts, pour faire des relations, aider les gens qui avaient des problèmes financiers, etc. Et donc, c'est à travers ces confréries professionnelles que le culte d'Hombon donc, va d'abord se répandre dans toute l'Italie entre 1350 et 1450, et ensuite franchir les Alpes, passer dans les pays germaniques, où on l'appellera Gutmann ou Gottmann, c'est-à-dire Hombon, c'est en allemand.
Oui, ils se l'ont complètement approprié.
Ils se sont appropriés, ils disent même à un moment qu'il était né en Thuringe, ce qui est vraiment absurde puisqu'il était de Crémone. Mais enfin bon, on a tout fait pour le naturaliser allemand. Et en France, il y a un problème, on n'a pas connaissance à l'heure actuelle, mais il faudra peut-être faire des recherches supplémentaires, j'ai pas eu le temps de faire, une grande diffusion de son culte. Il est attesté dans le midi de la France, en Provence, dans la vallée du Rhône, Brignoles, absolument, mais dans la France du Nord, la France royale, j'ai trouvé qu'un seul témoignage est très tardif au XVIIIe siècle dans le Perche, donc ça va pas très loin. Par contre, il pénètre en Espagne, et d'Espagne au Portugal, il passera au Mexique, où j'ai trouvé deux confréries à Mexico au XVIe siècle, et à Rio de Janeiro. Enfin, oui, donc il faudrait là aussi étudier sa carrière outre-Atlantique.
Oui, et d'Espagne, c'est moins loin, mais ce n'est pas moins exotique, il passe aussi en Flandre.
Voilà,
absolument. Pays espagnol.
Et alors, en Belgique, voilà. Il y a un succès, parce que l'actuelle Belgique, qui était les pays qu'on appelait les Pays-Bas au Moyen-Âge et à l'époque moderne, le culte a connu un grand succès. Il y a des régions d'industrie textile.
Dans les drapiers, il y en avait. Hein.
Voilà, il y en avait à revendre. Et j'ai réussi, dans mes recherches, à identifier le personnage qui trône au sommet de la maison des tailleurs à Bruxelles, sur la Grand Place. Tout le monde connaît la Grand Place de Bruxelles, qui est magnifique. Il y a un des plus beaux édifices, c'est la maison des tanneurs. Et il y a une statue. Bon, comme elle est très haute, on ne voit pas très bien qui c'est. Et on disait dans les guides, c'est un Atlante, comme c'est du XVIe siècle, on croyait que c'était une figure mythologique. Et en étudiant les photos de près, j'ai vu que c'était saint Hombon. À quoi je l'ai reconnu, c'est qu'il a une paire de ciseaux, donc ça ne peut être que lui.
Alors, précisément, si vous voulez bien, je vais vous faire une lecture de deux prières de ces confréries de tailleurs, car elles sont sympathiques, émouvantes, et replacent bien l'idée de ce culte. La première, ô glorieux protecteur, qui avec ton aiguille et ton doigt ganté a travaillé comme tailleur, donne-nous toujours un bon travail, nous t'en prions tous en cœur. Fais-nous bien gagner notre vie par notre travail, et des grâces, fais-nous don, ô très saint Hombon. Ça, c'est la première. Et la seconde, qui est beaucoup plus tardive, si je ne me trompe pas, puisqu'elle est du XVIIe siècle. Dieu qui a appris à saint Hombon à se distinguer dans l'acquisition des biens temporels au point de mériter les biens éternels, fait qu'instruit par ton exemple, nous sachions nous comporter honnêtement dans les affaires de ce monde et nous donner plus de peine encore pour les biens éternels. Saint Hombon, priez pour les marchands. La seconde est très intéressante, car elle met probablement le doigt précisément sur cette inflexion qu'il y a eu en choisissant saint Hombon, mais plus encore en utilisant son culte dont vous parliez, pour pour faire de la pastorale peut-être auprès des corporations ou s'en attirer les bonnes grâces. En tout cas, cela reflète une forte évolution, nous dites-vous, du regard porté par l'Église sur le travail, sur le commerce et les activités économiques en général.
Oui, alors on peut même continuer un peu plus loin, puisque j'ai cité dans mon introduction une prière que j'ai trouvée sur Internet. Et qui est non, mais qui prouve que le culte, contrairement à ce que j'imaginais, est encore vivant, en tout cas aux États-Unis. Et la prière, c'est très saint homme bon, je vous demande votre divine assistance dans mon environnement d'entreprise. S'il vous plaît, encouragez mes supérieurs à me récompenser avec un bonus confortable et une promotion significative. Donc vous voyez qu'il y a des adaptations.
Il y a des adaptations et on voit quand même la trace de l'utilitarisme anglo-saxon où il n'est plus question de dire aidez-moi à faire mon travail dans de bonnes conditions.
Non, là on parle de promotion,
et morale,
bonus.
Mais ça, allez, allons droit au fait. Right to the fact.
Exactement. Mais ça a été une de mes grandes découvertes. J'étais persuadé que c'est que j'étudiais un mort, enfin, un culte mort, et je découvre que dans un... Alors là, il faudra aussi approfondir, faire une recherche que je n'ai pas faite, mais qu'il est encore assez vivant. Non seulement j'ai trouvé ce document, mais comme ça, par hasard, sur Internet, mais j'ai trouvé aussi qu'en Angleterre, il existe un fonds de placement très important, semble-t-il, domicilié à Oxford, je crois, et qui s'appelle Homo Bono Foundation, et qui est derrière une fondation de bienfaisance.
Le marketing ne recule devant rien, monsieur. Mais dans cette évolution du regard porté par l'Église, parce qu'au départ, homme bon est choisi quand même comme saint et valorisé et sanctifié, parce qu'il a renoncé pour une grande part à son activité économique et s'est consacré plutôt à la quête des biens éternels, comme dit le pape. Dans un second temps, ce n'est pas cela.
Non, non.
C'est un retournement.
Là, il y a une relecture de mon par les laïcs, et en particulier par les drapiers, les confréries de drapiers que j'ai évoquées tout à l'heure de l'époque moderne, fin Moyen-Âge, l'époque moderne, prennent à leur compte ce culte, mais en même temps le refaçonnent. C'est-à-dire que dans la réalité, semble-t-il, enfin, nous le connaissons par des légendes du XIIIe siècle, mais enfin, elles sont concordantes, donc on peut penser que c'est vrai. À partir du moment où il se convertit, il ne travaille plus dans la draperie, il ne vend plus rien. Il se consacre aux bonnes œuvres. Tandis qu'à partir de la fin du XIVe et au XVe, et puis par la suite, on le prend comme modèle pour être un bon tailleur, un tailleur honnête, qui fait bien son métier, qui ne vole pas les clients, ce qui n'est pas du tout la même chose que de laisser tomber sa profession pour vivre saintement.
Oui, c'est ça. Au départ, on sanctifie quelqu'un qui renonce au travail pour se consacrer à d'autres choses, et dans un second temps, on utilise la même personne pour sanctifier le travail fait dans certaines conditions.
Et ça, je crois que c'est lié à une valorisation du travail qui s'impose à la chrétienté, au monde, à l'époque moderne, à partir du XVIe siècle, XVe, XVIe. On ne peut plus continuer à faire le discours médiéval de la conversion, renonciation totale, ça ne prend plus. Et donc, la valeur travail doit être prise en compte si on veut que les ouvriers ou les professionnels ne laisse pas tomber la religion. Il y a quand même des enjeux.
Est-ce que la concurrence avec le protestantisme ne joue pas un rôle aussi d'accélérateur?
Exactement. Non, c'est ça. C'est avant le protestantisme. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'on voit très bien que
les choses se mettent en place.
Que Luther et Calvin n'ont rien inventé. Enfin, n'ont rien inventé. Si, Calvin a des formules extrêmement fortes là-dessus, mais ça a commencé bien avant.
La sensibilité est déjà là.
Voilà.
Le changement de sensibilité.
C'est pas forcément un mal de faire des affaires. Le problème, c'est l'usage qu'on fait des biens qu'on retire de ces affaires ou des richesses.
Quoi. Donc la sensibilité qu'on dirait protestante ou pour parler comme quelqu'un luthérienne.
Ou calviniste, encore plus.
Encore plus, mais bon. C'était pas l'exemple récent. Préexistait dans cette société. C'est l'esprit de conscience irradié. Et chacun va chercher dans ses écrits ou son interprétation des écrits ou des vies de saints des façons de justifier ce changement de sensibilité.
Et là, il y a un signe peut-être, enfin, c'est une coïncidence en tout cas au moins, la traduction, les deux traductions allemandes, deux vies allemandes de saint homme bon, donc, qu'on appelle Gutmann en Allemagne, sont parues l'une en 1513, l'autre en 1518, c'est-à-dire exactement au moment où Luther va proclamer ses thèses et contester l'Église en 1517. Donc il y a une coïncidence entre les deux choses, même s'il n'y a aucun lien, bien sûr, mais la coïncidence est quand même frappante.
Alors, père des pauvres et patron des tailleurs, c'est le sous-titre de l'ouvrage, et puis c'est ainsi qu'on le décrit. Ce n'est pas ensemble, c'est plutôt successif.
Voilà, c'est ça.
D'abord, père des pauvres,
ah, oui, temps, non, patron de son vivant, il n'est pas question du patron des tailleurs, enfin en tout cas, on ne connaît pas de lien. D'autant plus qu'à cette époque-là, au XIIe siècle, il n'y a pas encore de confrérie, de guilde qui est structurée, disons. C'est un phénomène postérieur. Donc, sa conversion est un phénomène individuel. Mais elle est très bien reçue par ses confrères, disons, après coup, qui, au XIVe siècle, ont créé ce qu'on appelle le consortio, c'est-à-dire une association de bienfaisance à Crémone qui va dominer, enfin prendre en charge surtout les institutions charitables de la ville.
Alors même si les réponses ne sont pas... je m'éloigne un peu de la vie de Saint-Homme-Bon proprement dit, mais même si les réponses ont varié au fil des siècles et au gré de l'évolution peut-être même de la nature des activités économiques et de la sensibilité du temps finalement, ce qui est très étonnant lorsqu'on lit la vie de Saint-Homme-Bon et l'évolution de son culte, c'est que les questions que j'évoquais en introduction sur ces gens qui changent de vie, qui veulent renoncer à des carrières, en embrasser d'autres, mener des carrières différemment, en se penchant sur Saint-Homme-Bon, on se rend compte que ce sont des questions parfaitement intemporelles, finalement.
Oui, absolument. On entend souvent parler aujourd'hui de gens qui, après avoir souvent très bien réussi professionnellement, plaque tout, laisse tout tomber pour aller faire s'occuper d'handicapés ou d'enfants dans le tiers-monde. Enfin, donc il y a des ruptures tout à fait similaires aujourd'hui dans des milieux comparables, c'est sûr. Ce qui ne veut pas dire que rien ne change sous le soleil, mais...
il y a des permanences.
Il y a des permanences, voilà.
Finalement, même sans évoquer des questions de foi, Saint-Homme-Bon peut encore nous inspirer. Donc finalement, Saint-Homme-Bon, si ce n'est son culte, son histoire et la façon dont elle a été interprétée, est inspirante aujourd'hui encore, non ?
Tout à fait. Je crois qu'il faut bien voir, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai eu plaisir, je dois le dire, à étudier ce personnage à longue durée. Parce que si je l'avais étudié qu'au Moyen-Âge, bon, c'était intéressant, mais ça ne permettait pas de voir tout ce qu'on pouvait en tirer. Et étudier ce personnage du XIIe au XXe siècle, c'est extrêmement intéressant parce que ça permet de mettre en évidence le caractère plastique de la sainteté. Plastique, je veux dire qu'elle se... à partir d'un donné brut, la vie d'un personnage, ensuite cette vie, ses mérites, etc., sont réinterprétés en fonction à chaque fois d'un nouveau contexte social, économique. Donc là, on est tout à fait... c'est un exemple tout à fait démonstratif de cet caractère évolutif de la sainteté. Voilà.
D'autant qu'il y a peut-être un autre trait commun avec aujourd'hui, c'est que vous l'avez esquissé, mais c'est une période de grande transformation économique, ce qui signifie qu'un certain nombre de gens deviennent beaucoup, 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 beaucoup plus riches à l'époque, mais d'autres sont laissés sur le chemin des transformations, ce qui n'est pas sans rappeler la période actuelle.
Mais exactement, je crois que là, c'est pas du tout un rapprochement hypothétique ou hasardeux. Je crois que nous sommes exactement aujourd'hui dans une époque comparable au XIIe siècle. Le XIIe siècle, je vous l'ai dit, surtout en Italie, mais ailleurs aussi, en Occident, a connu une grande accélération de la croissance, à la fois agricole, mais aussi commerciale, pas encore industrielle, mais enfin, on est déjà avec la draperie, le textile, une sorte de proto-industrie. Hein. Eh bien, une accélération de cette croissance qui amène les hommes d'affaires à gagner énormément d'argent, je ne dirais pas sans faire d'efforts, parce qu'à l'époque, il en fallait pour traverser la Méditerranée, aller chercher des draps en Orient ou aller en vendre ailleurs, mais provoque un enrichissement tout à fait considérable et un appauvrissement en même temps de métiers traditionnels.
Qui ne sont pas adaptés.
Voilà, qui ne sont pas adaptés, qui n'arrivent pas à suivre. Donc on a à la fois cet enrichissement d'une élite et un appauvrissement croissant, d'une prolétarisation, on pourrait dire, sans exagérer, d'une partie des travailleurs. Donc ça nous fait penser à des choses connues.
Saint Hommebon de Crémone, priez pour nous, c'est un saint pour aujourd'hui finalement. Un
mais
saint
pourquoi pas
et... d'époque de transformation économique et un saint pour la responsabilité sociale de l'entreprise.
Voilà, je pense qu'il est moins inactuel qu'on pourrait le croire à première vue.
Mais c'est peut-être le cas du Moyen-Âge en général, non?
On croit je pense, trop oui, je pense, mais alors là on entrerait dans un discours très vaste.
en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions. J'invite nos auditeurs à se plonger dans le livre. Très accessible, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Certes, il y a des documents qui sont en latin, mais traduits en français. Mais le texte cursif lui-même fait environ 70 pages. Il est dense, mais tout à fait accessible à chacun. Et comme, je l'espère, chacun a pu justement le percevoir, on peut y trouver de multiples sources de réflexion. Même pour aujourd'hui, sa vie personnelle et sa vie sociale, sans aller jusqu'à se convertir. Les parallèles sont étonnants.
Merci beaucoup.
Et donc, je donne les références du livre. Saint Hommebon de Crémone, parent de Révoché, père des pauvres et patron des tailleurs. C'est donc dans la collection Subsidia Hagiographica, édité par la Société des Bollandistes. La Société des Bollandistes a un site internet où l'on peut, à Bruxelles, où l'on peut commander cet ouvrage et bien d'autres. Il suffit de taper donc Bollandistes dans un bon moteur de recherche. Je ne les citerai pas. Merci beaucoup André Vaucher.
Merci.